On dirait que Luc, dans ce récit dont il est l'auteur, regarde d'assez loin les rites qui sont proprement juifs. En effet, on le sait, Luc s'adresse à des personnes qui ne sont pas issues de la culture juive et qui, néanmoins, se sont converties à la nouvelle donne qui a été offerte par le Christ. De loin, donc, Luc, volontairement ou pas, entremêle deux rites. Celui dit de la purification, d'abord. Cette obligation rituelle concerne une mère ayant récemment accouché et donc qui aurait été mise en contact, et c'est une façon d'expliquer ce rite, qui aurait été mise en contact avec le plus intime du sacré, avec la vie, avec le sang. Et donc la femme ressort de tout ça avec le qualificatif d'impure, et elle va devoir, paradoxalement, être en quelque sorte purifiée de tout ce sacré qui l'a envahi, mais qui l'a transformé en un être ambigu, mixte, trouble. Et le sacrifice d'un animal lui permettra, selon la procédure rituelle, et lui permettra au bout d'un certain temps d'être rendu à la vie profane, à la vie non mixte, à la vie qui n'est pas troublée. Ça, c'est pour le premier rite. Et l'autre rite, c'est celui dit de la présentation. Il s'agit du rachat, c'est le mot de tous les mâles premiers-nés, vous l'avez entendu à la lecture. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont censés appartenir à Dieu. Et eux aussi doivent être, en quelque sorte, libérés de la prison du sacré. Et Luc, dans ce texte spécifique à lui, parce qu'on ne le trouve nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament, mêle les deux rites et en change un peu les teneurs traditionnelles. On pourrait dire qu'il les modernise dans son interprétation et dans le choix qu'il fait de ces rites pour dire quelque chose. Par exemple, en écrivant que ce sont les deux parents qui amènent l'enfant pour son rachat, alors que, dans ce cas-là, la présence même des parents n'est pas nécessaire. Et puis, il en profite aussi, sans trop se poser de questions, pour désigner Joseph et Marie comme respectivement le père et la mère de Jésus, ce qui nous prive de bien des débats qui n'intéressaient probablement pas le lecteur de base de Luc. Voilà donc pour le contexte qui donne l'impression que Luc regarde tout ça de loin. Cela m'a fait penser à cette façon que la plupart des contemporains, qui sont néanmoins attachés aux rites chrétiens, regardent les grands thèmes de l'Église, de très loin, sans devoir ou sans pouvoir s'attacher à la profondeur de la signification officielle ou initiale de ces thèmes, de ces rites, de ces comportements. Par exemple, le baptême d'enfant, pour la grande majorité des parents qui amènent leur enfant au baptême, n'a plus d'autre signification qu'une présentation à une communauté symbolique, humaine. Et l'instructeur, le préparateur, dans ce cas-là, aura beaucoup de mal à instruire ses parents, justement, sur la teneur initiale du sens du baptême. Et il se trouvera très souvent confronté à ce qui restera une attention polie. Pourquoi ? Parce que, simplement, beaucoup de transmissions et de racines ont été coupées depuis le XXe siècle, et c'est ainsi. J'en arrive à penser de plus en plus souvent qu'il n'est plus vraiment nécessaire d'essayer encore d'expliquer ce qui, pour les gens, n'a plus de sens. Mais, à une seule condition, parce que je ne vais pas vous laisser comme ça en 2021, à une seule condition, celle d'avoir quelque chose d'autre à proposer. Ce n'est pas encore le cas, visiblement, donc on va continuer à tenter d'expliquer et on suscitera encore un peu une attention polie. Quelque chose d'autre à proposer, oui, quelque chose d'autre ou de plus essentiel. Luc, qui lui aussi est un instructeur, au fond, qui est un catéchète, semble déjà ne plus trop s'attacher à l'explication. Il semble préférer se concentrer à ce qui, pour lui, devient essentiel. Et l'essentiel dans le récit qu'il fait de cet événement, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'attente de la consolation. La consolation d'Israël. Siméon, cet inconnu. Cette n'importe quelle personne qui se trouvait là, à ce moment-là. Siméon, qui n'était pas un prêtre, ni une personne spécialement gradée, qui aurait été dûment autorisée à dire des choses. Siméon, dit le texte de Luc, attendait la consolation d'Israël. Consolation. Le terme est polysémique, a plusieurs significations en grec. C'est le mot paraclésis dont on retrouve une forme dans l'annonce du paraclet que fait Jésus avant de s'en aller. Le paraclet, c'est celui qui va arriver. On le traduit par défenseur, on le traduit par avocat et qu'on a traduit aussi par consolateur. Cette espérance de la consolation désigne d'abord le désir brûlant qu'elle arrive. Et donc, comme dans toute espérance, elle permet le ressentiment d'une peur cachée, une peur qui n'est pas claironnée, bien sûr, parce qu'on espère. Et quand on espère, on n'est pas censé avoir peur, mais oui, une peur quand même, en filigrane, en contre-jour, que cette espérance vitale, comme la confiance vitale, à force d'être sans cesse étirée en longueur, sans cesse déçue, sans cesse moquée, que cette espérance s'étiole. En français, le mot « consolation » a d'abord été beaucoup plus intense qu'il ne l'est aujourd'hui. Cela désignait une restauration complète, une intégrité rendue à une personne, et ici donc à un peuple presque mort. D'où le désir brûlant et d'où la grande peur cachée sous cette espérance brillante. L'Évangile, la distribution de l'Évangile, de la bonne nouvelle, c'est aussi une consolation dans le sens fort du terme. Par exemple, si une prédication ne vous restaure pas, si un culte ne vous rend pas le chemin d'une intégrité que vous auriez perdue, si cet évangile ne ressuscite pas en vous une espérance pugnace, alors il n'y avait pas d'évangile. Alors c'était autre chose. Mais ce n'était pas l'évangile qui, lui, est essentiellement la promesse active et en partie réalisée d'une restauration, d'une consolation de gens abusés, blessés dans leur espérance et dans leur confiance. Et Siméon, il en était là. Il était sans doute blessé. Et cette consolation, il va la prendre dans ses bras. Heureux, enfin, de constater que sa vie n'a pas été vaine. Il est consolé. Et le peuple, c'est lui. Et Siméon, c'est nous. Nous qui sommes loin de la signification originelle des rites, mais nous qui avons toujours un sérieux besoin d'être consolés. Et ici, c'est l'enfant qui console l'adulte. Un peu comme un évangile bien neuf que nous aurions enfin réussi à prendre dans nos bras malgré notre défiance, parce que nous avions une grande expérience. Cette consolation-là, qui lui est présentée sous la forme d'un enfant, dont le texte dira qu'il sera fort, qu'il sera rempli de sagesse et de grâce, Siméon a l'intuition et livre cette intuition aux parents de cet enfant que cette consolation ne sera pas que sentimentale. Vous l'avez entendu, c'est un des textes les plus forts de l'Évangile de Luc avec le Magnificat. Cette consolation ne sera pas sentimentale, elle sera radicale, parce qu'elle va devoir faire du tri entre ceux qui abusent et ceux qui sont abusés. Les premiers chuteront, dit Siméon à des parents probablement interloqués, et les seconds se relèveront. Et ce sera ça la consolation, la restauration. Cette inégalité profonde qui prospère et s'auto-justifie dans l'oubli ou le mépris de la simple structure de la loi de Moïse, qui, même vue de très loin, même de très très loin, oblige quand même à respecter les humains autant qu'on respecte Dieu. Consolation. Tous ces abus envers les plus faibles ne peuvent plus se maintenir. La persistance de ces abus risque de briser l'ordre du monde. C'est la consolation que voit Siméon sous les traits de cet enfant de 8 jours. Un enfant qu'on imagine peu concerné d'ailleurs, évidemment, par tout ce qui se trame. Cet enfant deviendra un repère, un enfant qui, devenu grand, parlera, qui désignera de façon encore plus nette les limites, au cas où on n'aurait pas compris. Pour qu'on ne dise plus aussi facilement qu'il en est de la normalité quand la brutalité, quand l'abus s'abattent sur ceux qui ne peuvent rien. D'abord, les brutes, les abuseurs devront prétendre qu'ils ne le sont pas. C'est déjà ça. La violence, le rapt et la guerre vont cesser d'être des valeurs. Et nous sommes déjà dans ce monde. Mais tôt ou tard, la consolation, si vivement désirée, viendra consolider, dirais-je, son travail. La consolation rendra toute chose à la lumière et plus personne n'ira croire les menteurs. Siméon, sans cette espérance, en passe d'être réalisé. Il ne sait pas qu'il faudra encore du temps. Nous sommes, nous, encore en besoin d'espérer, malgré de grandes victoires successives sur l'évolution positive des règles de comportement entre les humains et même des humains envers leur propre création. Nous sommes au début de l'accomplissement de la promesse. Même si ce début est obscurci par des combats d'arrière-garde, mais combats qui font la une d'une actualité qui fait de l'argent avec l'angoisse. Cette consolation est encore une prophétie qu'il faut sans cesse rappeler. C'est pourquoi Luc, s'il commence son récit avec Siméon, celui qui donne l'impression que tout est accompli, oui, ben, c'est accompli pour lui-même, dans ses bras. Luc va poursuivre son récit par l'évocation d'une prophétesse, Anne, une femme très âgée, une femme dont la majorité de l'existence, vous l'avez entendu, a été du veuvage et de la prière. Une parenthèse, mais qui sont ces gens étranges, finalement, qui accueillent Jésus ? Pour Jésus, n'y aurait-il pas eu besoin d'avoir quelqu'un d'un peu plus respectable, un officiel, un décoré, quelqu'un de bien ? Eh bien, c'est parce que ces gens-là, c'est nous en fait. Ceux que la Bible appelle le peuple de la terre, les n'importe qui, ceux qui passent. Et Anne, elle, représente plus précisément ceux qui, loin d'être désespérés, ou qui se seraient des chrétiens inconsolables, ou qui refouleraient leur besoin d'espérer, continuent jusqu'à leur dernière force, continuent leur vocation de prophétiser la consolation, car elle arrive. Notre foi doit-elle aussi s'accomplir? Notre foi doit elle aussi s'accomplir avec cette absolue certitude. C'est avec la force de cette conviction que la prophétie de Jésus, c'est lui-même. C'est une prophétie active, une prophétie vivante, une prophétie incarnée, une prophétie permanente. C'est avec la force de cette conviction que la prophétie de Jésus, c'est avec l'alliance de la foi et de la certitude de nos mondes meilleurs que cette prophétie va s'accomplir pleinement. Je trouve que ce passage de 2020 à 2021 est assez spécial, historique. Je savais aujourd'hui qu'on n'allait être pas nombreux puisqu'il y a eu culte il y a 2 jours. Et j'ai eu, comme vous, peut-être l'impression que la semaine est très très vite passée. Mais ça tombe bien finalement. C'est comme si nous avions un petit nombre, une grande responsabilité. Ce passage de 2020 à 2021 est assez spécial. Pour nous, chrétiens, il doit devenir le symbole d'une résurrection obligatoire. Consolés nous-mêmes, nous pouvons devenir ce que la prophétie attend de nous, des réalisateurs d'espérance. Ne laissez rien tomber. Et si d'habitude, j'évite de faire des vœux, et j'ai compris pourquoi, je croyais que c'était parce que j'étais protestant et que les protestants ne font pas de vœux, mais en fait, c'était tout simplement de la superstition. Désolé. Et si d'habitude, pour ces derniers cultes, je fais aucun vœu, cette fois vraiment, je nous souhaite une très belle année 2021. Et je vous souhaite aussi de réaliser que vous êtes les éclaireurs du règne de Dieu qui vient. Que vous êtes Siméon. Ou mieux, que vous êtes Anne. Amen.